RFI. Grand reportage.
En Centrafrique, lors de la dernière tentative de coup d'État en janvier dernier, les groupes rebelles ont pris le contrôle de toute la majorité du territoire avant d'être repoussés aux portes de la capitale par les forces alliées. Si le conflit a baissé d'intensité, la situation humanitaire, elle, est de plus en plus dramatique. La guerre a laissé place au risque de famine et beaucoup redoutent l'arrivée de la saison sèche et la reprise du conflit dont les premières victimes sont toujours les populations civiles. Pour la première fois depuis le début de l'offensive, notre correspondant a pu se rendre dans les zones anciennement occupées par les rebelles et le constat est dramatique. Centrafrique, après l'occupation rebelle, c'est un grand reportage de Carole Valade avec Clément Diroma.
Aujourd'hui, nous allons effectuer une patrouille de reconnaissance sur l'axe Bangasso-Rafai. Nous allons progresser en formation en colonne. Distance entre les groupes est 50 mètres. Vitesse de progression est 20 km à l'heure. Embarquez!
Traversons actuellement le quartier de Tokoyo, à l'arrière de la Jeep qui a pris la tête de l'escorte. Et derrière nous, trois blindés de la MINUSCA. C'est le contingent marocain qui effectue une patrouille matinale qui pour l'instant se déroule sans encombre.
Bangasso, c'est le verrou stratégique pour qui veut contrôler le sud-est de la Centrafrique et la voie vers le Soudan. Cette mission revient au contingent marocain de la MINUSCA, 400 casques bleus répartis sur un front de plus de 500 km, couvrant près de 20% du territoire national. Colonel Noureddine Amaroui, commandant du contingent.
La situation est calme pour le moment, mais elle reste imprévisible à cause de la présence des groupes armés dispersés dans la forêt et plus particulièrement celui de l'EPC qui s'active dans la zone de Zimio.
En janvier, les rebelles fondent sur la ville en contournant les axes principaux pour emprunter des chemins de brousse. Le rapport de force joue alors en défaveur de la MINUSCA qui extrait les FACA et les autorités locales tandis que la population trouve refuge à proximité de sa base.
Nous sommes arrivés au village de Barama pour s'enquérir de la situation sécuritaire. Mettez-vous en position.
Repoussés hors des villes par les forces alliées, les rebelles se replient en brousse et profitent de l'épaisse végétation pour multiplier les embuscades. Deux casques bleus y ont déjà laissé leur vie, quatre autres ont été blessés. Capitaine Zargan, commandant de la 12e compagnie des forces marocaines en RCA.
Nous avons parvenu à faire régner le calme et également sécuriser et assurer tous les trafics commerciaux, notamment dans les principaux axes reliant les grandes villes des préfectures de Mbomo et de Mbom.
En réalité, les axes restent encore très incertains. À la gare routière de Bangasso, tout le monde a déjà visionné cette vidéo. On dit qu'elle montre l'attaque d'un convoi qui se dirigeait vers la ville quelques jours plus tôt. Théophile Redatoro, secrétaire général des opérateurs économiques du Mbomou.
Depuis que nous sommes informés de cette nouvelle-là, vraiment, chacun se demande s'il y a ses parents dans ce véhicule. Et l'inquiétude-là, ceux qui pouvaient voyager ne peuvent plus effectuer des voyages jusqu'à ce que la route soit sécurisée par le gouvernement.
Conséquence à la gare routière, des camions bloqués depuis des semaines dans l'attente d'une escorte de la MINUSCA.
Le camion qui était bloqué, c'est un camion pour un ami, je le connais à Bambari même. Et ils ont tué plus de 30 personnes en allant. Et puis ils ont brûlé même le camion. Ils ont brûlé même le camion. Trois camions brûlés.
Reconnaissable à sa casquette brune, Ahmed Edjigago, chauffeur de grande ligne, transporte l'aide humanitaire du PAM à destination des plus démunis.
Voilà mon camion, c'est Renault CBH320. La marque CBH320. Et voilà la cabine. Venez voir. De Bambari d'arriver jusqu'à Bangasso, et la zone d'ici là, il y avait plein de rebelles. Tout ce qu'il y aura sur toi, ils prennent.
Les rebelles UPC et les FACA, ils ont eu un échange de tirs. C'est là qu'ils ont aperçu les balles au-dessus, tout ça, au pare-brise.
Qu'est-ce qu'on voit sur le pare-brise là?
C'est les balles perdues, c'est ça.
On avait quitté Bambari dans la ligne d'haut et ils ont pris tout sur moi. Et moi, ils m'ont frappé même. J'avais un téléphone de connexion, ils ont tout pris l'argent de la formalité. Et ils m'ont tabassé normalement comme ça.
Malgré ça, vous avez eu quand même le courage de recommencer le travail?
Non seulement ça, c'est mon seul métier. Je suis obligé de le faire toujours. C'est ça le problème.
Salaire mensuel, 80 000 CFA par mois, plus 250 000 de primes si la marchandise arrive à destination. Ah.
Voilà. Les punaises de secours, les jantes, mes lipicots, et tout, bon, ça va, c'est rien que ça.
Cette nuit, trois détonations brisent le silence et la panique s'empare de Bangassou. Les habitants se précipitent vers le port dans l'espoir de gagner la République démocratique du Congo. Ruffin Guissiello, piroguier.
À propos des détonations d'hier soir, la population était totalement paniquée. Les gens sont venus ici massivement pour embarquer vers le Congo. Mais on a fait de notre mieux pour les calmer et pour leur dire que tout allait bien, qu'ils devaient rentrer chez eux.
Car les tirs provenaient en fait de l'autre rive. Ce matin, Guy-Justin Verne descend de la pirogue. Il revient à Bangassou pour la première fois depuis l'attaque rebelle de janvier dernier.
Notre position est précaire maintenant qu'il y a l'insécurité des deux côtés. Où est-ce qu'on va aller? Je suis coincé. Je pensais trouver la paix de l'autre côté, mais c'est pas ça. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Même ma maison a été détruite.
2013, 2017, 2021, le même scénario se répète. Aux premières rumeurs, la ville est désertée. Si tu as déjà été mordu par un serpent, tu vas prendre peur même à la vue d'une corde, murmure-t-on. Trois amis sont assis en cercle, devisant à l'ombre d'une maison en briques. Tous habitaient le quartier de la cathédrale, devenu champ de ruines à l'aspect fantomatique depuis les violences intercommunautaires qui ont fait plus de 140 morts en 2017. Fuir, c'est devenu comme une habitude pour Frédéric Malembe, qui pour la troisième fois consécutive abandonnait en janvier sa maison aux rebelles.
C'est qu'en 2013, on avait quitté, quand les éléments de la CDK avaient pris Bangassou, on était parti au Congo. Et en 2017 aussi, on était parti au Congo. Et en janvier 2021, on est parti au Congo. Donc, ça fait trois reprises que nous sommes déplacés pour le Congo. Ça, c'est là où je cultivais. Vous voyez maintenant, c'est envahi par de hautes herbes. C'est là que je faisais ma petite agriculture.
Et est-ce que vous comptez reprendre, défricher tout ça pour reprendre la culture maintenant?
Bon, pas maintenant. Pas maintenant parce que, vous voyez, on entend encore des rumeurs. On entend des rumeurs, on nous a dit que bon voilà, bientôt vous serez attaqué, bientôt. Si bien que, au lieu de reprendre ces travaux, agricole, je vais attendre un peu, voir si ce sont des rumeurs qui vont rester rumeurs, et eh bien je vais entamer ces travaux-là, sinon on risquera encore de partir de l'autre côté comme on avait fait avant.
Pour une quatrième fois.
Comment
vous faites alors?
C'est que vous me permettez le terme, notre régime alimentaire aujourd'hui, nous pouvons vous dire que c'est hydraulique, hein. Nous on ne prend pas l'eau pour étancher notre soif, nous prenons de l'eau, c'est pour diminuer notre faim.
Tandis que le jour décline, accentuant démesurément l'orangé de la terre, il prélève pour son repas quelques feuilles de manioc sur une tige frêle. Ces familles ont fui les alentours de la cathédrale après l'installation d'autres familles musulmanes venues du quartier de Tokoyo, attaquées en 2017 par les milices à dominante chrétienne. Quatre ans plus tard, Tokoyo porte encore les stigmates de la violence. De la mosquée ne subsiste qu'un pan de mur, à moitié rongé par les flammes. Casquette blanche et boubou bleu, Honoré Picot coanime le comité mixte de la zone.
Les gens ne voulaient plus voir les musulmans. Et les musulmans ne voulaient plus voir aussi les chrétiens, puisque les chrétiens ont détruit leurs biens. Il y avait eu des morts un peu partout, il y avait des blessés. Il y avait aussi des fosses communes qu'on a essayé d'enterrer d'autres corps, puisque c'était resté à l'air libre.
Malgré son propre traumatisme, il a choisi d'accueillir une famille d'éleveurs peuls sur ses terres, en dehors de la ville.
Au début, il y avait à la piscose. Et les gens s'inquiétaient de leur arrivée. Et on a fait une réunion avec la population pour voir qu'ils puissent s'expliquer comment ils sont venus. Et ils ont dit à la population qu'ils sont pourchassés par les groupes urbains pour venir se réfugier, c'est pour être calme avec leur famille en tout cas. C'est pourquoi on les a accueillis et on vit ensemble avec eux.
Je m'appelle Moussa Abdou. J'habitais près de Zemio, mais quand les rebelles sont arrivés, ils ont pillé notre bétail. Et comme on n'avait pas de médicaments pour soigner les bêtes, tout le troupeau est perdu. Les gens d'ici nous ont très bien accueillis. Ils sont vulnérables comme nous. Ils n'ont rien à nous donner, mais on est ensemble quand même.
Un peu de cueillette leur permet tout juste de subsister. Après deux longues années d'errance, la famille retrouve un peu de quiétude à l'abri des hautes herbes. Et ce n'est pas un cas isolé, car malgré ses tourments, Bangassou n'a pas oublié l'hospitalité. Un peu à l'écart de la foule, nous rencontrons une jeune femme qui demande à rester anonyme. Entre ses mains, la tasse de café tremble légèrement.
Je viens de Zemio. Lorsque les rebelles sont arrivés, j'étais en train de faire la lessive. Nous avons pris la fuite avec mon mari et nos enfants. Ils ont tiré et mon mari est mort. Ensuite, ils nous ont rattrapés et ils ont pris mon fils de 4 ans. Ils l'ont égorgé et j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillée, nous avons repris la route et j'ai marché pendant 2 mois pour venir jusqu'ici.
Nous sommes embarqués dans les 4x4 de l'ONG Oxfam. Destination, le village de Sigborolo. Premier obstacle, le fleuve de Mbari en pleine crue. Pour le franchir, il faut emprunter un bac mécanique et en piteux état. Seydou Khan, coordinateur terrain de l'ONG.
Comme vous voyez, les moyens sont rudimentaires, donc ça peut lâcher à tout moment. Donc ce qui fait que c'est de gros risques qu'on prend. Mais s'il n'y a pas assez d'incidents, on continue.
Le plus dur est passé ?
Une partie du plus dur. Mais il reste encore une partie pour aller à Sigborolo, une partie où on ne pourra même pas passer, on est obligé de marcher.
Il y a beaucoup de monde, hein. Le marché est très dynamique.
Oui, c'était pas comme ça à l'époque.
C'était comment ?
C'était difficile parce qu'au moment que vraiment les groupes rebelles sont là, tu ne vois pas ce monde-là. Ils sont tous fuis, ils sont d'abord exilés vraiment dans la brousse, au campé, au champ et tout ça.
Giscard Mbomo, responsable de la jeunesse de Niakari.
L'avion là, ça coûte cher.
Pourquoi ?
Parce que lorsqu'ils sont venus installer à Niakari, ils ont tous mangé vraiment les cabris, les porcs.
Ils ont mangé mais ils n'ont pas payé.
Non, ça prend force. Lorsqu'ils sont rentrés dans la mairie là-bas, ils ont pris les souches de l'acte de naissance des enfants à les fumer avec leur tabac. Ils ont pris tous les fiches, même les documents de la mairie. L'école saccagée, les bancs des élèves, ils ont tous détruit ça. Les élèves à l'école, vraiment, ils ont leurs pieds pour étudier. Et il y a des humanités.
Ils ont leurs pieds pour étudier, ça veut dire qu'ils étudient
debout.
Dans le petit centre de santé tenu par Christian Bagoussi, une douzaine de femmes accouchent en moyenne chaque mois sur une planche de bois.
Au moment que les CPC ont rentré dans notre commune, nous avions quitté brusquement comme ça. Lorsque nous avions retourné, il n'y a rien. Même pas un thermomètre, même pas une matelas, même pas un haricot. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Ici, c'est l'église. Il y a marqué, on voit la croix qui est faite en pierre blanche. Et là, il y a une inscription. Il y a marqué quoi ?
C'est paroisse Sainte-Croix de Niakari.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici à l'église ?
Ils ont cassé vraiment la sacristie, pillé là-bas les biens de l'église.
Si l'église de Niakari est aujourd'hui libérée des rebelles, à Bakouma, plus au nord, les paramilitaires russes qui combattent aux côtés des forces armées centrafricaines occupent encore la paroisse. De retour au marché de Niakari, le superviseur des commerçants, Séraphin Batouka, nous interpelle.
Nous sommes les tout premiers à être attrapés par ces gens-là. Même l'État ne pense pas à nous. Lorsqu'on parle qu'ils sont tentés de venir, ils sont tentés d'aller cacher les choses. Mais en cachant, il y a des gens, il y a des voleurs aussi. Ils sont là pour nous doiter.
Encore à l'heure actuelle, là ?
Bon, non. Pour le moment, nous sommes bien.
Pour le moment ?
Pour le moment, il n'y a rien. Pendant la saison humide, nous sommes protégés un peu. Par nos herbes, par nos arbres aussi. Mais pendant la saison sèche, on brûle les herbes là. Ça fait l'avancée de ces gens-là.
Les groupes armés viennent.
Voilà.
Nous reprenons la route en direction de Sigborolo. La piste est sinueuse, bordée de hautes herbes que l'on scrute avec inquiétude. Le pays est réputé le plus dangereux du monde pour les ONG. Plus tôt cette année, les groupes armés ont emporté 6 véhicules humanitaires lors d'une attaque ici même. C'est Lucan, on vient de descendre du véhicule, on est face à une situation.
Ça, c'est un pont de passage entre le village de Djinganjigi, qui est à 3-4 km de Niakari, pour aller à Sigborolo, qui est à 2 km. Mais ce pont de passage était détérioré, donc on continue les 500 mètres à pied.
Alors on y va.
Ok.
Nous touchons enfin au but.
L'accès était impossible, on ne pouvait pas sortir de Bangassou. Je vais dire de mi-décembre jusqu'au presque mars, c'est mort. Il n'y a pas de mouvement sur les axes, il n'y a pas d'accès humanitaire, tout est fermé. Les conséquences étaient lourdes parce qu'il y avait ceux qui avaient déjà lancé la culture maraîchère où ils étaient obligés d'abandonner carrément. Il y avait les champs, par exemple, qui étaient presque en phase de récolte et qui étaient carrément abandonnés. Donc ça a créé vraiment une crise économique terrible parce que quand les CPC viennent, c'est qu'ils raflent tout.
Tout, y compris le petit cheptel de Bertili Gamba.
Quand ils sont arrivés, ils ont pillé les maisons, le bétail, les poules. On a abandonné le village pour se réfugier dans la brousse. Certaines femmes ont même accouché là-bas. Comme il n'y avait pas de médicaments, 4 personnes sont mortes de maladie.
Armés de machettes, nous nous frayons un chemin parmi les herbes folles pour découvrir que les efforts de l'ONG, qui avait fourni des semences maraîchères, ont été réduits à néant. Magloire Bini, agriculteur.
On a dû fuir pendant la crise et abandonner la parcelle. C'est pour ça, vous voyez les herbes partout. Ils ont tout emporté, même nos petites réserves. Avant ça, on était déjà pauvres, mais là, on est devenu vrais pauvres.
Loin de se décourager, Seydou et son équipe promettent de revenir avec de nouvelles semences. Niakari, Sigborolo sont les villages qui ravitaillent en temps normal la préfecture. Si la campagne ne produit pas, la ville ne mange pas, dit l'adage. À Bangassou, chaque mercredi, le programme alimentaire mondial distribue l'aide humanitaire d'urgence. Quelques kilos de riz et un peu d'huile, à peine de quoi tenir la semaine pour une famille de 10 personnes. Un paradoxe qui révolte Léon Péquet, expert en économie rurale.
Il y a une forte densité de pluie, le sol est fertile, favorable à tout ce qui est culture. La région du Mbomou regorge beaucoup même de potentialités en ressources naturelles. Nous avons des superficies, nous avons des hectares qui ne sont pas exploités de manière industrielle. Donc les gens sont en train de travailler de manière semi-industrielle, en utilisant des moyens archaïques qui ne leur permettent pas à augmenter leur capacité de production.
L'aide humanitaire résout le problème sur le moment, mais si rien n'est fait sur le long terme, le cycle va recommencer, prédit l'abbé héritier d'Ouimbata, chancelier du diocèse de Bangassou.
Nous ne sommes pas une société dans laquelle on a l'habitude de faire des réserves. Et les gens vivent du jour au jour. Et donc il y a nécessité de formuler encore peut-être de nouveaux projets dans le sens de la production. Parce que quand la faim tenaille, les esprits s'échauffent et facilement on peut en venir à des nouvelles tensions. Quand je suis papa d'une famille, je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? C'est déjà des tensions en moi, personnellement, individuellement. Quand on me propose certaines solutions faciles, je peux devenir proie des groupes armés. On peut me manipuler facilement parce qu'on me dit « il y a de l'argent ici, si tu fais cela, tu auras de l'argent facile en vue d'eux ». Je suis au milieu des jeunes, j'ai rencontré quelques jeunes qui ont simplement regagné le groupe des rebelles parce que ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts au niveau de la famille.
La cathédrale porte le nom de Pierre Claver, saint patron des esclaves et des réfugiés. Sa figure orne les vitraux que traversent les tout derniers rayons du soleil. Quelques enfants courent à travers la nef en attendant le catéchisme.
Centrafrique après l'occupation rebelle, un grand reportage de Carole Valade avec Clément Diroma, réalisation Pauline Leduc.